Mais maintenant, nous allons passer à la présentation de Sophie Baba.
Oui, Migration africaine et christianisme au Maroc, une théologie en mouvement au service de la pluralité religieuse.
C'est long. Merci Thomas pour ta présentation qui nous montre ce transnationalisme par le bas, toujours téléguidé par le haut en fait. Parce que du coup, ça se termine à la fin quand tu dis que c'est la Banque mondiale et tout ça. Merde. Et on va essayer de voir aussi à travers d'autres acteurs. Merci Delphine pour cette invitation au séminaire à la chaire, pour continuer à réfléchir ensemble sur des problématiques qui se croisent pour les uns et pour les autres, puisque ça fait quand même des années qu'on se croise sur des terrains qui se ressemblent aussi avec Thomas, notamment l'aspect géographique, puisque là je suis au Maroc maintenant, mais aussi sur d'autres aspects, aussi sur une culture finalement, une culture aussi... sociologique, pas géographique pour moi, mais sociologique quand même, qui est proche. Donc j'ai commencé moi à travailler sur ces questions de migration et de religion dans un contexte qui était celle des Sénégalais en France, et pour montrer qu'il y avait une construction de la religion dans la migration. Au départ, c'est ce qui m'intéressait. Et puis petit à petit, les frontières se sont fermées et les gens se sont de plus en plus installés dans cette Afrique méditerranéenne. Et là, ce que j'ai pu voir, c'est que finalement, le religieux était aussi une ressource dans la migration. C'était pas seulement une construction des migrants pour asseoir une place, pour revenir sur ce que disait Thomas, pour asseoir une place dans le pays, mais finalement que la religion, elle était d'abord une ressource sur les routes de la migration, une ressource aussi bien pour les migrants que pour les acteurs religieux, finalement, qui vont là où les migrants passent et s'installent, créer un véritable marché religieux autour d'associations qui vont venir tout d'abord, qui vont se mettre là, donc des ONG confessionnelles et autres associations qui se mettent en place pour aider les migrants, etc. On va voir aussi toute une dynamique autour des lieux de culte qui va se dynamiser là où passent les migrants. Et ce qui m'a intéressé petit à petit, c'est de voir comment ça pouvait se construire. Alors, à la croisée entre l'anthropologie religieuse et la sociologie des migrations, et avec du coup aussi une histoire aussi commune de cette théorie, une anthropologie religieuse du mouvement. Alors, c'est la manière plutôt dans cette anthropologie religieuse du mouvement, c'est plus observer un transnationalisme par le bas, parce qu'on n'est pas dans le cas, on est moins dans le cas de structures religieuses transnationales qui vont se déplacer avec les. Enfin, dans des espaces et qui accueillent les migrants, plutôt que dans des constructions, la manière dont des constructions religieuses des migrants qui vont devenir les entrepreneurs religieux de leur foi sur les routes de la migration. Alors dans ces espaces-là, alors j'ai commencé après les migrations sénégalaises, je travaillais plus sur l'Égypte, et puis en Égypte, petit à petit, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il y avait de plus en plus de chrétiens qui arrivaient, de migrants qui arrivaient d'Afrique centrale. Et j'ai moins travaillé sur cette question de l'islam, mais plus sur cette question du christianisme qui se développait dans ces pays d'Afrique méditerranéenne, dans lesquels les migrants africains n'étaient pas seulement de passage, mais s'installaient de plus en plus durablement. D'Égypte, après, je suis passée au Maroc, tout simplement, parce que c'était des espaces dans lesquels il y avait de plus en plus d'ancrage, et aussi parce que le christianisme prenait une place plus importante par les migrants au Maroc. Et ce que j'essaye de montrer dans mes travaux, c'est d'une certaine manière comment les migrants vont reconstruire ce christianisme en migration, mais comment aussi cette question religieuse apportée par les migrants va poser question dans le pays d'accueil. Je prends de l'eau. Une anthropologie religieuse du mouvement qui part d'un premier constat finalement, c'est que les routes de la migration sont longues et que les temps de la migration sont des temps longs. Des temps où on va ancrer sa foi. Il y a des migrants qui me disaient « Dieu devient un compagnon de voyage dans ces moments-là ». Et donc c'est une manière dont on part avec sa foi, où on va ancrer sa foi, une manière dont aussi on peut dire que les gens vont partir avec leur héritage. Mais finalement, on se rend compte que paradoxalement, c'est aussi la migration, c'est ce temps de l'émancipation, ce temps où on s'éloigne de ses parents, où on s'éloigne des aînés, où on va faire des nouvelles expériences religieuses. C'est aussi, du coup, ce temps-là de la migration et de l'installation dans certains pays. C'est un temps de négociation entre, d'un côté, une religion héritée qui nous a été transmise, et puis, petit à petit, une religion expérimentée dans la mobilité. Alors, on parle aussi, en anthropologie religieuse, de butinage religieux. C'est un moment où on va essayer de... où on ne va pas essayer, mais c'est un moment où on construit... où on construit sa foi. Donc, vous voyez, sur les photos, je parle de l'ancrage de la foi sur les routes de la migration, parce que c'est vraiment des moments où, personnellement, on va essayer de retrouver une spiritualité qui nous accompagne pour le voyage, mais c'est aussi un moment où on fonde des associations, des organisations, des églises, etc. Donc, il y a énormément... Bon, là, on était au Caire, là, on est au Maroc, etc. Et donc, sur le contexte marocain, je vais un petit peu vous expliquer ça, c'est que de plus en plus, on était dans une période, depuis la fin de l'époque du protectorat, où les églises étaient complètement vidées. On avait des églises qui avaient disparu. Du côté de l'église catholique, elles avaient encore, on va dire, leur parc immobilier d'églises. Il y avait encore pas mal d'églises, mais très, très peu fréquentées. On retrouvait seulement dans ces églises quelques Européens ou des diplomates qui venaient, etc. Mais donc des cultes avec peu de monde. Du côté de l'église protestante, ils avaient même commencé à vendre leur patrimoine. Hein. Et par exemple, du côté de l'église protestante au Maroc, l'église évangélique au Maroc, il restait un pasteur dans les années 80 qui faisait tout le territoire. Donc on était dans une période au Maroc où le christianisme faisait sa révérence. Hein. On était dans un christianisme qui s'éteignait. Et puis arrivent les années 80 où on parle des étudiants africains qui arrivent au Maroc. Alors, on parlait d'étudiants, mais c'est toujours pareil. Hein. Si on remonte par rapport au terrain sur lequel je travaille, il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient sur les routes et qui s'installaient de plus en plus durablement. Et ce n'était pas seulement des étudiants, mais le Maroc voulait aussi ne voir que des étudiants dans sa migration. Elle avait déjà un petit peu du mal à l'époque à accepter qu'il y ait une migration qui arrive, une migration économique, une migration de toute l'Afrique. Donc on disait les étudiants, alors qu'en fait, il y avait quand même une grosse population. Donc dans ces moments-là, les églises vont se re-remplir de chrétiens qui arrivent d'Afrique centrale. Alors je parle de Centrafrique, Cameroun, Rwanda, les deux Congos, enfin voilà, toute une population qui arrive, qui s'installe, qui re-remplit ces églises. Et du coup, des cultes qui sont tenus par, d'un côté, des prêtres catholiques, mais quand même en nombre insuffisant, et de l'autre côté des pasteurs protestants, mais alors là en nombre très très insuffisant. Donc il va falloir dans ces moments-là, au Maroc où il n'y a pas encore la politique migratoire qui va commencer en 2013, on est dans une période où il y a un véritable bouillonnement chrétien, mais qui peut aussi partir dans tous les sens, parce que autant l'église catholique est une église qui se ressemble un petit peu partout, autant la famille protestante est très très large. Et il y a des églises qui vont se créer partout, des églises qu'on appelle églises de quartier ou églises informelles, des églises de maison, en fait, toutes ces petites églises avec des pasteurs qui soit connaissent une vocation en migration, parce que dans la migration, finalement, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des réelles vocations religieuses. Je disais que c'est un moment où on ancre sa foi, mais c'est un moment aussi où des fois on découvre aussi une vocation religieuse, et notamment, on a aussi pas mal de pasteurs qui vont devenir pasteurs en migration. On en a qui sont déjà pasteurs ou qui ont déjà un lien très fort avec la religion avant de partir et qui vont construire leur église. Et toutes ces églises sont... Là, c'est l'exemple d'une église, là, la Main Cachée à Rabat. Toutes ces églises sont un petit peu sous le même format, mais des formats un petit peu précaires dans des appartements et des formats aussi où finalement on peut être délogé très vite si on fait trop de bruit, si on chante trop fort. On est dans un système évangélique, hein, ou pentecôtiste, ou assemblée de Dieu, etc. Toute cette famille protestante, c'est aussi des cultes qui sont très animés, avec beaucoup de chants. Là, je vous montre une photo vide. Vous voyez ce que c'est, un lieu avant qui soit investi. Et donc, c'est des appartements qui sont investis par les gens, et c'est des moments où on va se retrouver en communauté. Et c'est pas un culte par jour, c'est 3 à 5 cultes par semaine. Donc c'est vraiment les églises informelles, c'est aussi des lieux qui sont construits par les migrants pour répondre à ce besoin de spiritualité, mais pas seulement, parce que c'est aussi des lieux où on se retrouve, où on discute, où on va parler de la politique migratoire du Maroc aussi, puisqu'il y a même des affiches dans ces églises qui expliquent comment va se mettre en place la politique migratoire, etc., qui il faut contacter, etc. Donc c'est des lieux ressources socialement. C'est des lieux où on rencontre des gens, où on peut trouver un travail. C'est des lieux où on peut rencontrer des passeurs aussi qui font continuer le voyage et l'aventure pour certains. Donc dans ces espaces et dans cette dualité au Maroc, on a les églises historiques qui sont là, qui accueillent de plus en plus de monde, qui débordent, qui ont des cultes le samedi et le dimanche surtout, qui commencent aussi à, qui ont développé aussi tout un service social, un service d'entraide, un service aussi pour les enfants, etc. On a dans ce paysage religieux, sur cette scène de la migration et sur le marché religieux dont je vous parlais, on a tous les ONG confessionnels qui sont arrivés, donc Caritas et pas mal d'autres, le CEI et plein d'autres ONG confessionnelles, des associations de migrants aussi, des associations qui sont à moitié politiques et à moitié spirituelles aussi. Alors ça, c'est un vrai mélange, et c'est ce qu'on retrouve souvent. Là, c'est une chorale. Donc, et on a ces églises qui se disséminent sur tous les quartiers où il y a des migrants, de Rabat, de Casa, de Fès, de Tanger, et même dans les camps, puisque je vous ai, il y avait un passage à un moment donné où je vous montrais la structure de ce que peut être aussi ces espaces religieux dans les camps aussi de d'Oujda, c'est-à-dire des temples de fortune. Alors je faisais... Ouais. Donc on a tous ces espaces qui sont... Ah non, là je vais dans le centre. Tous ces espaces qui se développent. Et de fait, pour les responsables du christianisme au Maroc, pour eux, ça a d'abord été vu comme une bénédiction. Toute cette migration, c'est une réelle bénédiction. C'est... Globalement, tous ces gens qui arrivent, qui sont chrétiens, ça va permettre de redynamiser le christianisme au Maroc, mais ça va surtout permettre au christianisme de reprendre une place. Et de fait, c'est pas, on n'est plus dans les mêmes schémas, on n'est pas dans un christianisme de la domination, on est dans un christianisme qui arrive par le bas, et qui fait peur aussi, et qui fait peur aussi bien aux églises, aux responsables des églises officielles, qu'au pouvoir et au ministère des Habous marocains. C'est-à-dire que dans ce bouillonnement chrétien, dans tout ce religieux qui arrive au Maroc, il va y avoir quelques angoisses quand même, de peur de prosélytisme, de conversion, etc. Toutes ces choses qui sont punies par la loi au Maroc, qui est un pays musulman, où la pluralité religieuse est acceptée, sauf pour les Marocains, donc pour les étrangers, on va dire. Donc c'est un pays où la liberté religieuse n'est encore pas accessible à tout le monde, et c'est des réelles revendications au Maroc, on verra aujourd'hui. Donc dans ce contexte-là, en 2011, le gouvernement marocain va expulser 120 pasteurs, notamment des pasteurs américains, qui faisaient un peu trop de prosélytisme, qui se montraient un petit peu trop. Et de fait, ça va faire vraiment peur aux responsables d'église, qui eux se disaient, on est dans un bon chemin, on peut réinstaller le christianisme au Maroc. Il faut savoir aussi dans le contexte marocain que ce n'est pas seulement un christianisme de la colonie. Il y a eu dans la phase entre le début des indépendances et aujourd'hui toute une part de personnes qui se sont mobilisées, alors j'allais dire d'un christianisme un peu mondain, c'est tout ce réseau qui travaille sur l'interreligieux, surtout les groupes de recherche sur l'interreligieux où on a des professeurs, on a des chercheurs, où on a des gens qui sont issus notamment de couples mixtes, hein, beaucoup de Français vivant au Maroc et vivant en couple mixte qui font vivre cet interreligieux au Maroc. On parle communément de dialogue des religions, enfin depuis Vatican II, etc. Mais dans les pays du Maghreb, c'est une réalité. C'est des groupes qui essayent d'impulser aussi une véritable discussion, un véritable débat, une théologie qui se réfléchit entre différentes religions. Donc ces groupes-là existent au Maroc, puisqu'il y avait le père Jacques Levrat, il y avait des figures importantes de l'interreligieux qui étaient au Maroc. Et confonder des lieux comme ça de discussion entre l'islam et le christianisme. Donc on est dans cette logique où il ne faut pas que tout ça disparaisse. Donc les gens vont aussi s'emparer de cette question-là en disant si le christianisme part dans tous les sens, si ce bouillonnement chrétien se déverse partout, etc., s'il n'y a pas de contrôle, finalement ce qui va se passer, c'est que le gouvernement marocain et le royaume va mettre à la porte tous les chrétiens, va interdire les cultes, et puis on sera mal barré là-dessus. Donc petit à petit, il y a notamment un pasteur un peu visionnaire à l'époque, et aussi qui s'investit pour mettre en place une formation et un encadrement théologique. Donc l'idée aussi, ce qu'il faut comprendre dans ce pays aussi, c'est qu'à partir de 2013, il y a une politique migratoire qui va se mettre en place, et que cette politique migratoire va aussi servir à l'apaisement un petit peu social quand même dans les quartiers de migration. On sent qu'il y a une reconnaissance aussi des migrants par le royaume, et du coup, pour les gens dans les quartiers, les voisins, les Marocains qui vivent avec les migrants, qui vivent à côté de ces églises informelles, où ça chante, où ça danse, etc., on sent que petit à petit, il y a plus d'acceptation. Il y a le temps qui fait, il y a le temps long, hein, parce qu'effectivement, on est dans des temps longs, Mais il y a aussi le fait qu'il y a une première politique migratoire, une première phase de régularisation en 2013 qui se termine en 2015 avec 27 000 régularisations au Maroc. Donc le premier pays en fait de toute l'Afrique à mettre en place une politique migratoire, c'est le Maroc. Donc 2015 et 2016, fin 2016, début 2017, commence une deuxième phase de la politique de politique migratoire du Maroc avec la régularisation. Donc à peu près, on atteint à peu près une régularisation à peu près autant. Donc là-dessus, il va falloir surfer sur cette vague où entre d'un côté, pour les chrétiens, on a accepté, mais tout doucement, on va dire. D'un côté, on commence à être dans des églises informelles, mais avec des gens régularisés. Donc avec moins de crainte quand même, finalement, de faire des cultes, parce qu'on est dans des moments où il y a un petit peu d'apaisement. Il y a des exemples dans les quartiers, tout simplement, où les gens, le fait d'être régularisés, vont me dire que c'est une véritable renaissance. J'ai un passeport, avec ma vraie date de naissance, mon vrai pays, ma vraie ville. Enfin, c'est quelque chose qui est énorme, sur lequel on n'arrive pas toujours à se rendre compte quand on est, comme le cas de Jumelle, là, qui est devant. Ça fait 17 ans qu'il est parti de chez lui, 17 ans où il a pas eu de vrais papiers. C'est la première année où il a des vrais papiers. Donc cette renaissance-là, c'est aussi une forme de légitimité aussi, et qui va permettre à ces acteurs religieux au Maroc d'exercer plus tranquillement aussi leur culte, et finalement aussi d'avoir une théologie qui diffère. Alors ce que je vous disais, mais parce que je ne suis pas rentrée trop dans les détails, c'est que je travaille quand même en anthropologie religieuse aussi, en sociologie des migrations. Et dans l'anthropologie religieuse, chaque fois, je m'inspire quand même et je travaille la théologie aussi. Et j'ai suivi aussi des cours de théologie chrétienne parce que je ne connaissais pas grand-chose au christianisme, notamment dans un institut dont je vous parlerai après. Et dans cette théologie chrétienne, finalement, de toutes ces petites églises qui arrivent, on était plutôt dans une théologie des croisades, une théologie qui était un petit peu guerrière. On n'était pas admis sur le territoire, on n'était pas aimé, on était, voire des fois, tué, voire rejeté, discriminé quand même régulièrement. Et finalement, du coup, la théologie, elle s'adapte. On était dans une théologie qui rejetait aussi bien les autres chrétiens, les historiques, finalement, qui ne nous acceptaient pas tant que ça, que les musulmans. On appelle ça une théologie des croisades. Et c'est toute cette théologie qu'il fallait contenir. C'est pas seulement ce pluralisme en termes, il y a différentes dénominations, différentes églises. Non, il y avait vraiment une théologie qui était guerrière, qui était dangereuse, et qui était dangereuse aussi pour l'unité religieuse du territoire. Donc on passe petit à petit avec un ensemble d'acteurs qui vont s'impliquer sur cette scène religieuse au Maroc, notamment les protestants, qui vont devoir aussi un petit peu encadrer toute cette diversité, mais aussi toute cette tension et toute cette violence qui pouvait être dans les églises, à une théologie qui devient une théologie de la migration, une théologie qui va s'adapter. C'est pour ça que je parle d'une théologie en mouvement, parce que c'est une théologie inductive, par le bas. C'est une théologie que certains acteurs religieux de l'église protestante, l'église évangélique au Maroc, le EAM, vont pas théoriser, puisque finalement, à la limite, c'est moi qui me suis chargée de la théoriser pour eux, parce que maintenant, il y a des prêtres et des pasteurs qui arrivent et qui me disent « Mais voilà, mais comment je fais alors ? Parce que les migrants, là, ils me parlent d'un dieu de l'aventure, etc. » Je dis « Moi, je suis qu'anthropologue. » Mais c'est vrai que j'ai commencé à théoriser cette théologie de la migration en m'inspirant aussi, finalement, de ce que j'avais vu sur terrain, de la manière dont les pasteurs... Bon, il y en a quelques-uns qui ont déjà vu aussi une séance, tu l'as vu aussi, où un culte de la régularisation où un pasteur va s'inspirer de cette politique de la migration pour parler et pour expliquer justement pourquoi on est bien sur cette terre, pourquoi on est accueilli là, etc., qu'on n'est pas là par hasard, que Moïse et Jésus étaient aussi des migrants, etc. Donc toute une théologie de la migration qui va s'inspirer du vécu des gens. Et qui est donc une théologie, on connaît bien en anthropologie la question inductive, donc qui naît par le bas et qui va se construire pour être adaptée aux situations que rencontre le migrant. Donc d'une théologie des croisades, on passe de plus en plus, grâce à certains acteurs, à une théologie de la migration, une théologie finalement en mouvement aussi, comme ces gens-là, mais qui prend en compte petit à petit la réalité de leur vécu et surtout qui a une visée politique qui est celle de l'apaisement. On est d'accord, on est dans une théologie qui veut reconnaître, dans le culte sur la régularisation qu'avait fait le pasteur Samuel, on reconnaissait, on remerciait le roi, on remerciait le président du Conseil national des droits de l'homme, Driss Aliazami, d'avoir régularisé des gens, de trouver sa place, etc. Donc on est dans une théologie, je disais à un moment donné, qu'on est aussi pas loin des théologies de la libéralisation, d'Amérique latine, parce que c'est une théologie finalement aussi politique une théologie qui s'adapte, mais qui veut rentrer aussi dans la logique, dans cette pensée aussi théologique d'être acceptée sur un territoire, dans une théologie de l'apaisement aussi, mais qui donne des perspectives, qui disent on n'est pas là par hasard, on est là pour reconstruire un christianisme au Maroc. Donc vous voyez, on est dans petit à petit des parcours de migrants à des réelles constructions théologiques. On a quand même passé quand même quelques années au Maroc, entre les premiers migrants qui sont arrivés, qui ont développé toutes ces églises, petit à petit les renvois de certains pasteurs à une église, petit à petit qui s'installe, des églises historiques et des églises informelles qui commencent à travailler ensemble, tout simplement parce qu'il y a eu, à un moment donné, des acteurs religieux, dont l'évêque de Rabat et notamment le président de l'église évangélique au Maroc, qui ont décidé de mettre en place une formation et un institut de formation qui s'appelle l'Institut Amourafaka. L'Institut Amourafaka, qui est un institut de formation œcuménique théologique, catholique et protestant, qui va former les leaders religieux. Et ce qui se passe souvent dans la migration, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que chacun arrive avec sa religion. Effectivement, la religion, c'est un bagage comme un autre. On construit sur place, on construit ensemble aussi, on construit avec ce qui se passe localement. Mais il va manquer, à un moment donné, la formation des leaders. Parce que sinon, ça part dans tous les sens, c'est ce que je disais. Donc autant l'Église catholique envoie des prêtres, autant l'Église protestante envoie très peu de pasteurs et les gens sont formés un petit peu sur le tas. Donc il faut un peu uniformiser tout ça. Donc ils ont mis en place cet institut dans un ancien lieu qui appartient à l'Église catholique, qui était justement un lieu dédié à l'interreligieux. C'était la source qui avait été fondée par le père Jacques Levrat dont je vous ai parlé. Donc vous voyez là, c'est un professeur qui donne un cours dans la chapelle, quand même, donc un cours d'islamologie dans la chapelle. Et donc, c'est une soutenance avec la belle chemise du pape François pour un étudiant centrafricain. Mais donc, tout ça dans ce lieu-là, ils vont mettre en place avec l'Université de Strasbourg et la Cato à Paris une formation universitaire, une licence de théologie, pour former des gens à la question de l'œcuménisme chrestien, bien sûr, c'est-à-dire à ce qu'on rencontre quand on est en migration. C'est-à-dire à savoir dialoguer, pas seulement avec les musulmans, mais entre chrétiens, parce que ce que me disait même l'évêque à un moment donné, c'est que le plus difficile, ça a été de dialoguer entre chrétiens, pas avec les musulmans. Ce que les musulmans leur ont apporté, surtout pour les uns et pour les autres, c'est que les 5 prières par jour, une foi qui est très présente, ça a donné beaucoup de vocations religieuses. Donc ça c'est vraiment quelque chose que disent les chrétiens, c'est en disant, en étant dans un pays où la foi est si présente au quotidien, ça nous a donné nous aussi envie finalement de creuser, d'apprendre, etc. Donc il lance en 2012 l'Institut Mouafaka avec donc pas mal de profs d'universités européennes mais aussi africaines, donc énormément de profs des universités catholiques et protestantes de toute l'Afrique qui vont venir donner des cours sur cette question, donc sur plein de questions. D'ailleurs, ça peut être aussi bien la théologie chrétienne, la christologie, ou comment faire un culte, etc., la théologie protestante, etc. Et ils travaillent souvent en binôme, un catholique et un protestant. Ce qui est très dur, c'est que ça les... Même ils le disent, ça nous déplace, nous, dans notre foi, mais on a besoin d'être déplacés parce que les gens dans la migration sont déplacés. Donc ils travaillent toute cette question, cette notion du déplacement, et aussi toute la rencontre avec l'islam, donc avec beaucoup de chercheurs d'islamologues, d'anthropologues et de sociologues qui viennent expliquer l'histoire de l'islam, le monde de l'islam, la théologie musulmane, si on peut dire qu'il y a une théologie musulmane. Et on travaille des textes du Coran de la même manière, avec la même exégèse qu'on travaillerait des textes de la Bible. Donc dans cet institut, il est en train de se construire ce que j'appelle une théologie de la pluralité religieuse. Alors ça, c'était le troisième temps de ma communication. C'est-à-dire que petit à petit, une théologie qui s'est adaptée dans les églises de migrants, mais aussi une réflexion théologique qui est arrivée grâce à la migration. Cette réflexion théologique sur la pluralité religieuse, cette théologie de la pluralité religieuse, elle arrive parce qu'on est confronté les uns et les autres à une religiosité différente. Donc ça, on va plus loin du coup que le dialogue ou que le débat interreligieux. Là, on est avec des musulmans et des chrétiens qui vont chercher ensemble à faire une théologie pensée en commun. Alors c'est aussi, il faut voir aussi la question des sciences religieuses au Maroc. Les départements de sciences religieuses font de la théologie pour de l'histoire, un petit peu des religions, mais ne font surtout pas de sciences humaines et sociales. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'analyse critique des religions dans les départements et dans les universités au Maroc. Donc c'est un des seuls lieux au Maroc où certains professeurs islamologues ou musulmans qui enseignent les religions ailleurs disent « je peux ici faire un travail d'analyse critique, un travail sur les textes, un travail sur les contextes qu'on ne peut pas faire ailleurs dans les universités marocaines ». Alors toute la question, effectivement, c'est le dernier point que j'évoquerai, c'est en quoi finalement toute cette arrivée des migrants et d'une religion différente, on peut faire le parallèle avec l'Europe et la question de l'islam en Europe qui arrive avec l'immigration et qui a posé tout un débat aussi, etc. Sauf qu'on n'est pas allé sur une réflexion d'un débat théologique, on est allé sur une réflexion d'une question de dialogue, de vivre ensemble, etc. Là, on est dans une phase où, comme il faut aller vite, comme en plus il y a une politique migratoire qui permet aux gens de s'installer, on essaye de construire ensemble une théologie un petit peu différente. Et de cette construction aussi, tout simplement parce que le Maroc est dans une phase aussi où toutes ces migrations réveillent forcément le désir pour les chrétiens marocains, parce que même si la pluralité religieuse n'est que pour les étrangers, il y a quand même des chrétiens au Maroc qui ne peuvent pas vivre leur religion, donc ils ne peuvent pas aller au culte, ils ne peuvent pas aller à la messe, et du coup ils ne peuvent pas se baptiser, etc. Ils font tout ça de manière cachée en faisant venir des prêtres ou des pasteurs à la maison, etc. Donc il y a tout un ensemble, toute une communauté chrétienne marocaine en fait, qui se dit bah, tous ces chrétiens arrivent d'Afrique, réveillent un petit peu ce christianisme, mais nous on ne peut pas, on ne peut même pas aller suivre des cours de théologie dans un institut œcuménique, etc., sous peine de risquer de se faire arrêter. Donc les professeurs peuvent venir enseigner, mais des Marocains, citoyens marocains, ne peuvent pas venir suivre des cours. C'est un petit peu compliqué quand même. Alors ça commence à se mettre en place. Donc du coup, c'est vraiment comment l'immigration, et avec ce qu'elles amènent aussi, elles re-questionnent la pluralité religieuse du Maroc, en fait. Et cet institut, si on voit le cheminement, si on voit sa construction, on voit bien que les instances religieuses marocaines, elles ne sont pas loin. Elles n'ont pas empêché de le faire. Elles l'ont laissé faire. Elles l'ont laissé faire en contrôlant tout le temps ce qui se passait pour pas que ça déborde non plus. Elles contrôlent parce qu'elles se posent, elles aussi, la question de ce qu'on va faire au Maroc, ce que va devenir le Maroc par rapport à la liberté religieuse. D'un côté, il y a ces chrétiens qui redemandent, qui ont été reçus le mois dernier au Conseil national des droits de l'homme, ces chrétiens marocains qui disent, bon, ok, les églises sont pleines et tout, machin, mais nous, on ne peut toujours pas vivre librement notre foi. Et de l'autre côté, il y a aussi toute une société marocaine, beaucoup de citoyens qui voudraient vivre sans religion. Et ces gens-là, ils sont là aussi pour porter sur le devant de la scène la question de la liberté religieuse. La question de la liberté religieuse, c'est celle de choisir sa religion ou de choisir de ne pas être croyant aussi. Donc on est dans cette phase au Maroc où les migrations, elles ont questionné quelque chose qui est assez sensible aussi, cette question de l'appartenance religieuse et cette question de la non-appartenance religieuse, cette question des libertés, cette question qui est portée par la société civile aujourd'hui et par quelques associations au Maroc, celle de la liberté religieuse ou celle de la liberté du non-jeûner en période de Ramadan, etc., qu'on voit ressurgir un petit peu partout. Voilà un petit peu dans le déroulement, dans le temps, de voir comment par le bas on peut montrer comment les migrations peuvent réveiller aussi des dynamiques et des problématiques qui sont d'ordre national. Voilà.
Merci beaucoup.
C'est la suite des propositions.